J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un week-end formidable. J'attends que les gens sortent un peu parce que ça me trouble un peu. J'espère que ça vous dérange pas d'attendre un peu. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un week-end formidable. Je veux que vous sachiez tous que vous m'avez énormément encouragé. Que c'est bien de pouvoir passer un bon moment avec des gens qui s'aiment, avec des gens qui se parlent, qui rient ensemble, qui ont vraiment la joie de vivre. Parce que ça paraît évident qu'on est là comme ça ensemble ce week-end, mais une fois qu'on se retrouve au boulot ou qu'on se retrouve à la maison ou qu'on se retrouve un peu seul, c'est pas aussi évident que ça. Quand on parle avec d'autres personnes, c'est pas évident que les gens soient gentils. C'est simple, mais c'est pas si évident que ça. Alors je voudrais vous dire que vous m'avez énormément encouragé et que je repars, j'espère comme vous, plein d'énergie et plein de joie. La chose qui est assez ironique, c'est que je vais parler ce matin de l'encouragement par la parole et je suis à moitié à faune. Parce que j'ai tellement chanté, j'ai tellement crié ce week-end que j'ai la voix un peu rauque, mais j'espère que vous allez comprendre ce que je vous dis. Quand Charles s'est levé, il est où Charles? Il est là? Ouais. Quand Charles s'est levé, c'était samedi matin. Pour parler de l'encouragement, le premier verset qu'il a cité, c'était ma conclusion. Son développement, c'était mon deuxième point. Et puis à partir de là, j'ai arrêté de compter parce que ça a été comme ça tout le week-end. Tout le week-end, tout le monde m'a piqué des idées. Mais j'étais content parce que j'ai parlé à Marie-Claire, on lui a même piqué un proverbe à Marie-Claire. Ça, faut le faire. Hein. Piquer un proverbe à quelqu'un, faut vraiment chercher à le faire. Hein. C'était quoi ce proverbe, Luc? C'était là.
Les paroles dites à propos sont comme des pommes d'argent. Des pommes
d'argent. Sur une ciselure d'argent. Ouais, alors faut vraiment aller chercher moi pour le piquer à quelqu'un, celui-là. Alors moi, bon, puisque vous avez tout dit ce que j'avais à dire, j'avais une solution, c'était tout simplement vous dire d'ouvrir vos bibles à Ecclésiaste. Et puis, de lire le verset 7 du chapitre 3. Qui dit tout simplement, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ce que je pourrais faire, c'est me rasseoir, et puis vous méditez ça. Parce qu'en fait, c'est à ça que ça se réduit. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Il y a des gens comme moi qui sont très bavards, qui parlent trop. Il faut qu'ils apprennent qu'il y a un temps pour se taire. Et il y a d'autres gens qui sont très timides et qui ne parlent pas assez, qu'il faut qu'ils apprennent qu'il y a un temps pour parler. Et je crois que si tout le monde médite ce verset-là, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler, on peut apprendre énormément de choses au sujet de l'encouragement par la parole. Aujourd'hui, en fait, je ne vais pas vous faire ça, hein, je ne vais pas me rasseoir. Mais je vais vous parler de l'encouragement par la parole d'une manière assez pratique. Je vais parler de quatre choses que je considère sont essentielles pour encourager les gens par la parole. Le premier point, c'est que je considère qu'il faut être attaché à la justice. Il faut avoir un sens de la justice très poussé. La deuxième chose dont je vais parler, c'est qu'il faut que nos actes et nos paroles soient compatibles. C'est, il faut que les actes et les paroles que nous avons, il faut que ça concorde. Le troisième point, c'est qu'il faut que nos paroles soient patientes, qu'elle soit humble et qu'elle soit douce. Et le dernier point, et ça c'est donc ce avec quoi Charles a commencé, c'est incroyable comment l'esprit travaille, je vais terminer avec son introduction, il faut que nous disions aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous disent. Alors j'ai dit que le premier point c'était que il faut être attaché à la justice. Et pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire pour vous montrer comment c'est important. Quand j'étais tout petit, j'avais une voisine, elle s'appelait Madame Curati, est-ce qu'elle s'en souvient? C'est une voisine insupportable, elle n'aimait pas les enfants, et mon papa, il aimait beaucoup les enfants. Et elle ne supportait pas qu'on fasse passer la balle dans notre jardin, de notre jardin à son jardin, et parce que quand on allait sonner, ils nous enguirlandaient tout le temps en disant « Ouais, vous avez fait passer la balle et tout ». Alors nous, on avait pris la sale habitude de tout simplement, au lieu de sonner à la porte, regarder s'il y a quelqu'un dans le jardin, sauter au-dessus du mur, aller chercher la balle et revenir. On a fait ça un certain nombre de fois, et un jour, j'étais en train de jouer, et bon, je tape la balle comme d'habitude par-dessus le mur, et je regarde au-dessus du mur, à peine regarde au-dessus du mur, il y a Madame Curati qui regarde de l'autre côté et qui croyait, elle, que moi je venais de ressauter dans son jardin et qui dit, je vous ai vu, vous étiez dans mon jardin et tout. Et je dis, non, j'étais pas dans votre jardin. Et puis je retourne dans le jardin en me disant, pourvu qu'elle se calme. Puis elle va sonner à la porte, elle appelle mon père, votre fils, c'est un scandale, il a sauté au-dessus du mur encore une fois et tout. Et pour une fois, j'avais pas sauté par-dessus le mur. Ah, je me dis, zut, pour une fois je ne saute pas au-dessus du mur, mon père vient me voir et puis il me dit, est-ce que tu as sauté au-dessus du mur, Daniel? Je dis, non, j'ai pas sauté au-dessus du mur. Il me dit, t'as déjà sauté au-dessus du mur? Je dis, oui, mais là, j'ai pas sauté au-dessus du mur. Pas sauté par-dessus le mur. Il me dit, tu me promets que t'as pas sauté au-dessus du mur? Je dis, non, j'ai pas sauté par-dessus le mur. Il est voir Madame Curati, il a dit, mon fils n'a pas sauté par-dessus le mur. Il dit, si, je l'ai vu, il a sauté par-dessus le mur. Et mon père a dit, quand mon fils dit quelque chose, il ne ment pas. Moi j'étais derrière, c'était là. Papa, on rajoute pas. Ça fait plaisir, hein. Ça c'est encourageant. C'est encourageant parce que c'est juste. Enfin, c'est pas juste que je veux dire, c'était juste. Il m'a demandé si je l'avais fait. Je lui ai dit que je l'avais pas fait. Et au lieu de dire à la voisine, oui, alors vous comprenez les enfants et tout, il a dit non, il l'a pas fait. Puis c'est tout. Puis il a été juste, et ça, ça a été pour moi un encouragement énorme, quoi, de savoir que la personne qui m'encourageait était quelqu'un qui avait un sens de la justice qui était vraiment fort. Donc je crois que ça, c'est une des choses importantes, c'est que les gens sachent que nous, on est attachés à la justice. Si on est attaché à la justice, on va pouvoir les encourager par la parole. Encourager quelqu'un quand on a un problème, ça ne veut pas dire dire à la personne ce qu'on veut qu'elle entende, ce qu'elle veut entendre, pardon. Et ça, c'est mon deuxième point, c'est que si on parle à quelqu'un, il faut essayer de lui parler à lui, mais il ne faut pas essayer de lui dire ce qu'il veut entendre. Et ça, c'est très difficile parce que quand on veut bien s'entendre avec quelqu'un, souvent on dit ce qu'il veut entendre. C'est-à-dire, si par exemple Christophe me dit « Ouais, je peux pas supporter Charles, il m'énerve, je sais pas. » Ça va pas l'encourager que je lui dise « Ouais, t'as raison Charles. » En plus, il est autoritaire et puis j'aime pas les Américains. Non, ça c'est pas de l'encouragement. Peut-être que Christophe, s'il peut pas supporter Charles, il va trouver ça très bien. Mais c'est pas de l'encouragement. Donc, si on veut parler à quelqu'un, si on veut l'encourager, il faut aussi savoir lui dire pas ce qu'il veut entendre, ne pas être démagogique, mais savoir lui dire ce que peut-être il ne veut pas entendre. Et si on veut lui dire ce qu'il ne veut pas entendre, il faut que cette personne sache qu'on est juste. Comme ça, s'il sait qu'on est juste, s'il a ce sentiment qu'on est juste, il va croire ce qu'on lui dit. Et le deuxième point qui arrive maintenant, c'est la même chose un peu, mais c'est pas exactement la même chose. Je m'en sors bien. C'est qu'il faut que ce que l'on dit concorde avec nos actes, tout simplement. Je suis en train de lire un livre pour l'instant qui s'appelle « Le chemin le moins parcouru ». En anglais, c'est « The Road Less Traveled », c'est « Le chemin le moins parcouru ». Et on en ressort énormément de choses, mais l'une des choses qui ressort, c'est que quand on donne deux messages différents à une personne, deux messages qui ne concordent pas, la personne choisit d'habitude le plus facile et sans doute le plus négatif. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, je vais parler de la cigarette. Alors, s'il y a des gens qui fument ici, je ne suis pas en train de vous tomber dessus, je ne fais pas un sermon au sujet de la cigarette, c'est pas mon intention, je veux seulement vous parler d'un comportement qu'il y a dans la société. J'ai regardé autour de moi avec un ami dernièrement, qui était ancien fumeur, qui ne fume plus depuis quelque temps. On s'est mis à regarder le contexte, on s'est mis à regarder un peu comment ils vivent. Et bien, presque dans tous les cas, on a vu que ceux que nous connaissons, les amis que nous connaissons qui fument, viennent de familles où les parents fument. Et la plupart, ou presque tous ceux qui ne fument pas, viennent de familles où les parents ne fument pas. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça devient intéressant à partir du moment qu'on sait qu'à peu près tous les parents disent à leurs enfants « Faut pas fumer, c'est pas bon pour la santé, c'est mauvais, ça fait du mal aux poumons, on peut attraper le cancer » et tous les arguments qui s'en suivent. Tous les parents disent ça à leurs enfants, ceux qui fument, ceux qui fument pas. Enfin, la plupart, hein. Moi je veux pas généraliser, mais tous les gens à qui je parle. Et qu'est-ce qui se passe quand des parents fument? Et ils disent à leurs enfants, faut pas fumer, surtout faut pas fumer, hein. Attention, parce que si tu fumes, tu vas faire ça, 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 tu vas attraper ça, 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 et c'est mauvais pour la santé. Et il se retourne et le soir même, claque, il allume une clope, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a un comportement d'un côté et il y a un message de l'autre. Donc, comment réagit la personne? Elle se dit, il y a deux messages différents, il faut que j'en choisisse, hein. Choisis le plus facile. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est que la plupart du temps, la personne choisit ce qu'elle a envie de faire de toute manière et se met à fumer. Si par contre, des parents ne fument pas, et disent à leurs enfants, ne fume pas, c'est mauvais pour la santé, les gens vont peut-être essayer, mais au moins ils savent, si la personne me dit quelque chose, si elle m'encourage à faire quelque chose, et elle-même le fait, ou elle-même ne fait pas ce qu'elle dit de ne pas faire, c'est un encouragement positif, c'est un encouragement valable. Et ça, c'est très important. Je vous lis une petite histoire. Je voudrais que vous me la lisiez, parce que je trouvais quelqu'un qui va me la lire. C'est dans Marc. Vous allez voir un peu comment ça s'applique dans la Bible. Marc 1, Marc chapitre 1, verset 12. Est-ce que je me trompe là? Marc 2, pardon, je me trompe. Marc 2, 1 à 12. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas trop crié, qui a une voix assez puissante pour lire une longue histoire? Quelqu'un veut? Christophe, est-ce que tu peux lire s'il te plaît?
Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile ? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes. Et glorifiez Dieu en disant, nous n'avons jamais rien de ça.
Ça, c'est des comportements et des paroles qui s'accordent. Hein. C'est exactement ce dont j'étais en train de parler. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il y a quelqu'un qui fait quelque chose, et quand les deux s'accordent, on voit la réaction des gens. Ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je vous raconte pas l'encouragement. La personne se lève et marche alors qu'elle était paralytique. Je crois qu'il n'y a pas un plus grand encouragement qui puisse exister. Et c'est vraiment ça que Jésus fait ici. Il demande aux gens qu'est-ce qui est plus facile, de dire quelque chose à quelqu'un ou de faire un acte qui prouve que cette chose est vraie. Mais moi, je ne sais pas ce qui est le plus facile. Hein. Moi, je ne sais pas si c'est plus facile de guérir quelqu'un ou de pardonner ses péchés puisque les deux sont impossibles. Tout ce que je sais, c'est que quand les deux concordent, c'est la preuve que cette personne est intègre, c'est la preuve que cette personne, et ici c'est Jésus, que cette personne dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Alors, n'oublions jamais que les gens nous regardent et que nous pouvons dire ce que nous voulons. Si nous ne faisons pas ce que nous disons, ce sont des paroles mortes, ce sont des paroles vides, Si nous ne vivons pas ce que nous disons, si nous ne faisons pas ce que nous disons, nous n'allons jamais pouvoir encourager qui que ce soit. Ensuite, je voudrais parler de trois qualités, ensemble, je vais parler des trois qualités qui me paraissent très importantes si on veut parler à quelqu'un, si on veut encourager quelqu'un. La première, c'est la patience, la deuxième, c'est la douceur, et la troisième, c'est l'humilité. Bon, je suis prof et je travaille dans une école et je vois donc beaucoup d'élèves qui travaillent sur certaines choses, qui arrivent à faire des choses très vite. Il y a des gens qui sont très vifs, il y a des gens qui sont plus lents. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. On donne le même problème à un élève, on donne le même problème à l'autre. Si on donne 20 minutes à un élève et si on donne 1h30 à l'autre, les deux vont réussir parfaitement. C'est pour ça que je n'ai jamais été d'accord avec le système des examens qui ont des heures fixes, parce que je considère qu'on devrait donner un problème à quelqu'un et lui laisser le temps de le faire. Les gens considèrent que celui qui arrive le plus vite est le plus intelligent, je ne suis pas d'accord. Mais moi je sais que, en tout cas, si on veut aider quelqu'un, si on veut encourager quelqu'un, il faut avoir de la patience avec cette personne. Et on a toujours tendance à vouloir brûler les étapes, et ça c'est tout simplement le résultat de notre égoïsme. Quand on est en train, quand on est prof ou quand on enseigne, et on demande à quelqu'un de faire quelque chose, et on voit que la personne cale, la solution, c'est pas lui donner la solution tout de suite en disant « mais t'es bête, c'est ça et ça et ça ». La solution, c'est peut-être de l'aider à trouver le mécanisme qui va se, un mécanisme qui se débloquera ou à tout simplement découvrir le mécanisme qui l'aidera lui-même à trouver la solution. Mais ça ne sert absolument rien à la personne de savoir que si on lui donne un problème, on a déjà trouvé la solution. Puisque comme c'est nous qui corrigeons l'examen de toute manière, ça paraît évident qu'on la connaît la solution. Mais on est tous un peu égoïstes et quand on voit quelqu'un de lent, on a l'impression qu'il est bête, et c'est pas vrai. C'est pas vrai, les gens lents ne sont pas les gens bêtes, il y a des gens très lents qui sont extrêmement intelligents et beaucoup plus intelligents que des gens qui sont rapides. Les gens rapides, quelquefois, ils disent n'importe quoi. Je sais, j'en suis un. Et la patience est quelque chose de très important parce que la lenteur n'est pas un défaut. Ça, j'ai appris depuis longtemps que la lenteur n'est pas un défaut. Il y a l'histoire du psychologue. Il y a un patient qui vient le voir, qui a un problème, il va voir le psychologue et il arrive, bon il est dans la salle d'attente et puis il y a le docteur qui dit « Suivant !» Alors, petit bonhomme qui arrive, on ouvre la porte, il arrive à peu près là au bureau, quoi, il va voir le psychologue et lui dit « Docteur, j'ai un problème, j'ai l'impression qu'on m'ignore. » Le docteur il dit « Suivant !» Bon, je crois pas que la psychanalyse elle va durer longtemps. Hein. Pour encourager, si on veut des résultats immédiats, il n'y a pas de chance qu'on réussisse, il y a peu de chances qu'on réussisse, et en plus, la chose qui est grave, c'est que si on n'est pas patient, on va peut-être pousser la personne encore plus bas qu'elle ne l'est. C'est-à-dire si la personne a besoin d'aide, et on n'est pas patient avec elle, il est possible qu'elle en ressorte pire que où elle en était avant. Alors ayons de la patience. Ensuite, je voudrais vous parler de la douceur. Je vais encore vous raconter une histoire au sujet de mon père. C'est quelqu'un qui est très important dans ma vie, c'est la personne qui m'a peut-être le plus encouragé avec ma mère. C'était quand j'avais, là j'étais un peu plus âgé, j'avais 15-16 ans. C'était la première fois que j'avais décidé de rentrer très tard à la maison sans prévenir mes parents. J'avais le droit de rentrer tard, j'avais qu'à les prévenir, j'avais qu'à dire chez qui j'étais, ou si je passais la nuit chez un ami, j'avais qu'à les appeler. Mais ce soir-là, j'avais décidé, non, je n'allais rien leur dire. Jusqu'à 11h, j'avais le droit ce soir-là, et puis 11h, minuit, 1h, 2h, 3h du matin, j'avais 15-16 ans, c'était la grande libération. Puis à 3h, je me dis, oh, j'ai l'école demain, il faudrait peut-être quand même que je rentre. Alors, je rentre à la maison, puis je sors ma clé, enfin vous connaissez tous, hein, vous l'avez tous fait, on met la clé dans la porte, on essaie de ne pas faire de bruit, on ouvre la porte, et derrière la porte, il y a mon père. Qui attendait depuis 4h. Et là, il me regarde et il me dit, mais Daniel, t'as pas école demain? Je regarde, si, j'ai école. Et il s'assoit avec moi dans la salle de séjour, il me dit, mais tu crois que tu vas réussir à te réveiller demain matin? Je lui dis, ouais, je pense. Il dit, bon, bah, si tu penses, va te coucher. Puis c'est tout. Je vais me coucher. Demain matin, je lui dis, j'ai pas intérêt à être de mauvaise humeur. Je me suis réveillé. Je suis allé à l'école, je suis revenu le soir, j'ai dessins sous les yeux, je me suis couché. Il n'en a plus jamais parlé. Il a été vraiment ce qu'on appelle la douceur même. Il m'a demandé si j'avais l'impression que mon comportement était intelligent. La réponse était claire, c'était stupide ce que j'avais fait. Il a été très très doux avec moi. Et puis voilà, je veux dire, j'ai eu ma leçon, je n'ai plus jamais fait. Ça m'est arrivé une fois. Et je sais que s'il m'avait dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il est 3h du matin, il m'avait enguirlandé, enfin je sais pas ce qu'il a... C'est sûr que je lui ai refait le coup, mais systématiquement. C'est sûr, sûr. Voilà. C'est sûr que chaque fois, je me serais dit « Oh papa, il va m'enguirlander » et puis comme il m'enguirlande, bon, c'est un système, c'est le cercle vicieux, je l'aurais fait systématiquement et je ne l'ai plus refait. Je ne l'ai plus jamais refait. Si, je l'ai refait une fois. Mais bon, ça c'est... c'est pas un concours de circonstances, j'ai raté le train. Mais bon, si on a la douceur avec les gens, on va réussir à faire des choses qu'on ne pense pas faisables. Et il y a une chose qui se passe au sujet de la douceur, et c'est la même chose, j'ai de l'humilité, je ne vais pas avoir le temps de parler de l'humilité autant, mais tu as dit quelque chose, j'ai de l'humilité, Luc, que j'ai trouvé extraordinaire. Quand on partage une faiblesse avec quelqu'un, c'est beaucoup plus encourageant que quand on se place en professeur et qu'on dit « Ah, t'as un problème, ah oui, en effet, t'as un problème. » Quand on parle à des gens comme ça, on va vraiment pas, on va peut-être les encourager, mais un tout petit peu. Si on fait comme Luc a dit, si on partage une faiblesse avec quelqu'un, on va réussir à toucher la personne beaucoup plus. Et je crois que toutes ces choses-là sont liées, la patience, l'humilité et la douceur. Et ce qui se passe, je tourne ma feuille, ce qui se passe, c'est que très souvent, même nous, on dit le monde, mais même nous en général, on a l'impression que, ou bien les gens doux, patients et humbles, ils ont un don. Alors ils ont un don. Ils sont doux, ils sont humbles, ils sont patients. Ah, ils ont un don, ouais. Moi, mon don, c'est plutôt de donner la collecte et de rendre visite aux gens. Mais lui, il a un don, il est doux, patient et humble. Ça, c'est pas vrai, ça s'apprend. Toutes ces choses, les trois choses-là, ça s'apprend. Ou alors la deuxième réaction, qui est plutôt une réaction du monde, c'est que les gens doux, patients et humbles, ils sont bêtes. Hein, parce qu'ils sont patients, et puis ils sont doux, donc ils réagissent pas quand on leur marche sur les pieds. Et puis ils sont humbles, alors ils sont pas toujours en train de dire qu'ils sont les meilleurs. Donc les gens ont l'impression qu'ils sont un peu bêtes. Ou alors, les gens les admirent et trouvent qu'ils ont un don et ne pensent pas qu'ils peuvent les imiter. Alors la douceur, c'est peut-être un don, la patience et l'humilité, pardon. La douceur, la patience et l'humilité, c'est peut-être un don, mais ça s'apprend aussi. Ça, c'est la première leçon. Et je voudrais dire Matthieu 10, 16 maintenant. Parce qu'il y a un mot qui résume ces trois choses-là dans Matthieu 10, 16. Matthieu 10, 16. La deuxième partie du verset. Ma version dit prudent, hein, mais j'ai vu des versions qui disent simple, et c'est ça, c'est ce mot-là qui m'intéresse. Soyez donc simples comme des serpents. Non, pardon, c'est pas les serpents qui sont simples. Soyez prudents comme les serpents. Il y en a d'autres qui disent rusés comme les serpents, d'autres versions. Voilà. Rusés ou prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Voilà, c'est ça, simples comme les colombes. Et le mot simple, ça veut dire sans malice. Ça veut dire donc quelqu'un qui est simple, qui est sans malice, et quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui est, doux, patient et humble. Et on voit dans le même verset qu'on peut être doux, patient et humble, et être une personne très très rusée, hein, être quelqu'un de tout à fait vif, quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut, quelqu'un qui a des buts, mais qu'on peut être, en ayant tous ces attributs, on peut aussi être doux, patient et humble. Donc il ne faut surtout pas croire que les gens qui sont comme ça sont des gens qui sont limités. Les gens qui sont comme ça sont des gens admirables et ça peut s'apprendre en plus. Maintenant, si vous croyez que la douceur, je prends l'exemple de la douceur, mais c'est la même chose pour l'humilité, c'est la même chose pour la patience. Si vous croyez que la douceur, ça ne s'apprend pas, si vous dites « moi je suis quelqu'un de véhément, je ne peux pas être doux, quand je pense quelque chose, il faut que je dise aux gens », essayez. Tout simplement, essayez. La prochaine fois que vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, c'est une discipline, vous dites « bon, cette fois-ci je vais essayer d'être doux ». Et au lieu de dire à la personne comme vous l'auriez dit d'habitude, dites-lui gentiment, doucement, et puis regardez après quel effet ça fera. Je peux vous parier que vous auriez 3 fois, 10 fois, je ne sais pas combien de fois plus de succès en parlant à la personne comme ça, qu'en le faisant comme vous l'auriez fait d'habitude. Et vous verrez la réaction de la personne. Ça ne peut être que positif, et ça s'apprend. C'est pas facile quand on est véhément, mais c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Et tout ça, ça paraît des vérités de la panisse, ce que je dis au sujet de la douceur, de l'humilité, de la patience, mais apparemment, ça n'a pas encore touché l'humanité au point que tout le monde a fait sien ces trois qualités. Je connais beaucoup de gens qui sont patients, doux et humbles au sein de l'Assemblée. J'en connais beaucoup moins qui ne sont pas chrétiens. Et c'est des choses qu'il faut que nous apprenions. Maintenant, je sais que l'une des idées qu'on a souvent, quand une personne nous embête, quand une personne nous énerve, quand on a des difficultés à parler à quelqu'un, c'est « cette personne ne le mérite pas ». On a souvent l'impression « cette personne ne mérite pas que je sois douce avec elle, cette personne ne mérite pas que je sois patiente avec elle, et cette personne ne mérite pas que je sois humble avec elle ». Je l'ai entendu dire, hein, c'est pas seulement qu'on le pense, j'entends des gens qui disent « elle ne mérite pas, elle m'a fait ça, 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 et ça, elle ne mérite pas ». Et moi, la seule question que je vais vous poser, si on parle comme ça, est-ce qu'on a l'amour ? Est-ce qu'on peut avoir l'amour et dire « une personne ne mérite pas notre douceur, notre humilité, notre patience ?» Et la question que je vais surtout vous poser, c'est « est-ce que nous avons mérité la patience, l'humilité, la douceur de Dieu ?» Il faudrait qu'on médite ça, parce que ça, c'est vraiment un point qui est très important. Je vais terminer avec ce fameux passage, ce fameux Matthieu 7,12, qui pour moi est le fondement de l'encouragement en général et de l'encouragement par la parole. Je lis le verset, c'est très court. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ce qui est très fort dans ce passage, c'est qu'il fait appel à notre humanité, il fait appel à notre côté humain. J'en ai parlé avec quelques personnes pendant ce week-end. On ne dit pas « aimez les autres et rien ne vous sera donné en retour », on dit « aimez-les, ils vous aimeront ». Et je ne vais pas faire un sondage, je ne vais pas vous demander de lever le bras si ce n'est pas vrai, mais si ce n'est pas vrai, venez me voir à la fin. Je crois que toute personne ici dans cet auditoire veut qu'on l'aime. Je crois que c'est l'une des caractéristiques de l'être humain, c'est que l'être humain veut qu'on l'aime. Si vous n'êtes pas comme ça, je dis venez me voir parce que vous êtes un spécimen rare. Je connais très peu de gens qui ne veulent pas qu'on les aime. Moi, je sais que j'aime bien qu'on m'aime. Et ce passage fait tout simplement appel à ça. Si vous voulez que les gens vous aiment, c'est très bien, c'est normal. Mais alors, il faut leur donner la même chance. Eux, tous les gens que vous voyez autour de vous, les centaines de gens que vous voyez qui prennent le bus, qui prennent le train, tous les gens que vous rencontrez, chaque personne est exactement comme vous, elle veut qu'on l'aime. Chaque personne veut exactement ce que vous voulez. Et donc, il faut partir de ce point de vue-là. Il faut tout simplement donner aux gens ce que nous, on aimerait que ces gens nous donnent. Avant de terminer, parce que je vais terminer, maintenant je vais conclure, on n'a plus beaucoup de temps. Et il y a tellement de choses qui ont été dites ce week-end, je vais pas en dire trop. J'ai été très encouragé par toutes les études que j'ai entendues. Je voudrais mentionner juste un danger avant de finir. Faisons attention quand on encourage des gens, surtout par la parole. Faisons attention, nous ne sommes pas Dieu. Ce que nous avons à dire n'est peut-être pas automatiquement la vérité. On sait toujours pour les autres ce dont ils ont besoin, et on ne sait jamais pour soi ce dont on a besoin nous. C'est très bien de savoir pour les autres, mais il faut aussi se dire, peut-être que moi je ne sais pas exactement ce que cette personne veut faire. Alors, encourageons les autres, mais je crois que si nous avons la douceur, la patience, l'humilité, si nous avons un sentiment de justice, si on prend tous ces adjectifs et toutes ces caractéristiques, on va essayer d'encourager l'autre de la manière qu'on aimerait qu'il nous encourage, mais surtout faisons attention, on n'a peut-être pas raison quand on dit « lui, il devrait faire telle et telle chose ». Apprenons à écouter les autres aussi quand on les encourage, parce que parler à quelqu'un, c'est aussi connaître sa situation, on n'a peut-être pas toujours la solution. Il y a un proverbe qui dit, en français, « dans le doute, s'abstenir ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce proverbe. « Dans le doute, s'abstenir ». Ça, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Ça me paraît être une erreur. « Dans le doute, s'abstenir », ça laisse une bien grande place au doute dans notre vie. Et moi, je voudrais remplacer la fin de ce proverbe par un proverbe d'Augertien qui dit « dans le doute », et tout simplement reprendre le verset Matthieu 7,12, « dans le doute,